Vous écoutez, on lit pour vous.
Anxiété financière. Et si nous changions notre rapport à l'argent? Un texte de Joanne Martin, paru le 9 avril 2024 dans Virage. Quel rapport psychologique à l'argent entretenez-vous? Si vos besoins de base sont comblés, cette relation explique sans doute le fait que vous ressentiez, ou non, de l'anxiété financière. D'ailleurs, à partir de quel seuil jugez-vous avoir assez d'argent? Peu importe la période de sa vie ou son origine, trois vitamines psychologiques assurent le fonctionnement optimal de l'être humain. Si les besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale augmentent le bien-être et les émotions positives, tout élément, l'argent y compris, qui ne satisfait pas ou qui réprime ses besoins innés et universels, est susceptible d'engendrer plus d'anxiété, de dépression et de comportements antisociaux ou destructeurs. Disciple de la théorie de l'autodétermination, Jacques Forêt, psychologue organisationnel et professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, a étudié le rapport à l'argent de nombreux individus. Lorsque l'argent nous habite par comparaison sociale, par impulsivité ou pour surmonter ses doutes personnels, la relation est négative. Poursuivi par autonomie, liberté, loisir, fierté, équité, sécurité ou pour la famille, l'argent peut être positif. Le professeur Forêt rapporte que des enquêtes démontrent qu'avec un revenu qui se situe entre 65 000 et 110 000 $ par année, on obtient l'effet maximal de l'argent sur le bonheur. Comme psychologue organisationnel, je rencontre des gens qui gagnent un salaire variant entre 20 000 et les 7 chiffres. Parmi les plus fortunés, certains m'ont confié être inquiets au sujet de l'argent, tandis que d'autres, aux revenus plus modestes, se sont dit confortables. Plusieurs actions qui font du bien. Outre le contexte d'une personne qui tente de s'extraire de la pauvreté, dépasser un certain seuil de revenus, c'est donc le rapport psychologique à l'argent qui explique qu'un individu éprouve ou non de l'anxiété. Plutôt que de chercher à toujours vouloir accroître ses avoirs, il faut se questionner sur son niveau de satiété financière. Jacques Forêt et son équipe ont par ailleurs voulu vérifier s'il était possible de modifier, chez des gens, leur rapport à l'argent. Nous avons fait des recommandations et qui ont eu un effet statistiquement significatif. Nous avons invité les individus non pas à acquérir du matériel, mais à faire quatre autres choses. Acheter des expériences, utiliser l'argent pour avoir plus de temps, investir dans sa sécurité et effectuer des dépenses au profit des autres plutôt que pour soi-même. Ces interventions ont révélé que l'on pouvait s'entraîner à faire bon usage de l'argent, établit le psychologue. Le chercheur précise que les expériences créent de l'affiliation sociale chez une personne, en plus de l'amener à vivre une activité qui a été librement choisie, autonomie, et qui peut aussi conduire au développement de nouvelles habiletés, compétences. Employer l'argent pour se dégager de tâches désagréables, calmer le petit hamster qui court dans sa tête, assurer sa sécurité et passer du temps avec ses proches peut changer le rapport à l'argent. L'argent, source de stress. Chez les 55 ans et plus, au Québec, une personne sur trois, 34%, affirme que penser à ses finances personnelles provoque un sentiment d'anxiété, selon la plus récente mesure de l'indice d'anxiété financière de Centraide. Près d'une personne sondée sur 4, 27 % remarque que discuter de ses finances peut lui causer des palpitations. De plus, 25 % des gens dans cette tranche d'âge préfèrent carrément ne pas penser à l'état de leurs finances personnelles. Parmi les sources d'inquiétude les plus fortes, notons le coût de l'alimentation, 55 %, les frais liés à la santé dentaire et oculaire, 42 %, ainsi que les dépenses relatives aux médicaments et aux soins de santé, 39 %. Les répondantes et répondants ont aussi relevé les craintes de subir une grosse dépense imprévue, 40 %, et de ne pas avoir assez d'argent de côté pour la retraite, 35 %. Ces données proviennent du plus récent indice d'anxiété financière de Centraide, réalisé en octobre 2023 en collaboration avec Léger. Vous souhaitez connaître votre niveau d'anxiété financière? Sur son site web, Centraide présente un outil pour le mesurer. centraide-mtl.org/mesurer-votre-anxiété-financière. Il suffit de remplir le sondage, obtenir le résultat et le comparer à celui de la population québécoise. C'était Anxiété financière. Et si nous changions notre rapport à l'argent? Un texte de Joanne Martin, paru le 9 avril 2024 dans Virage.
Le Club des super donneurs de sang s'élargit. Un texte d'Esther Dabert, paru le 14 mai 2024 dans la presse. Je n'avais pas les moyens de donner de l'argent. Alors j'ai décidé de donner de moi physiquement. Le 9 mai 2024, Jean Bernier a réalisé son 1600e don de produits sanguins, un record au Canada. Lucille Desjardins, elle, vient de rejoindre le club très sélect des femmes ayant atteint les 1000 dons au Québec. « Je voulais aider ceux qui étaient dans le besoin », explique le super donneur. C'est à l'âge de 18 ans que Jean Bernier a fait son premier don. Depuis 53 ans, cet ancien enseignant en génie électrique est devenu un habitué des centres d'Emma Québec. « La réglementation n'a pas toujours été la même », dit-il. « Au début, je n'avais le droit de donner qu'une fois tous les 3 mois, mais depuis quelques années, j'y vais une fois toutes les 2 semaines. » Mais pour atteindre un tel palier, le retraité de 71 ans ne s'est pas limité au sang. Je fais 3 types de dons, des dons de sang total, des dons de plasma et des dons de plaquettes. Une pratique semblable à celle de Lucille Desjardins, qui vient elle aussi de marquer l'histoire d'Emma Québec. La retraitée de 76 ans, maintenant 2e femme du Québec à atteindre la barre des 1000 dons, se souvient encore très bien de la date de son premier. C'était le 8 avril 1966. Si cette ancienne éducatrice en garderie a décidé de commencer à donner à l'âge de 18 ans, c'est sans réellement se poser de questions. Ma sœur le faisait déjà. Et puis, je suis une personne aidante de nature. Si je peux aider, c'est normal que je le fasse. Certaines règles à respecter. Selon la porte-parole d'Emma Québec, Josée Larrivé, la différence entre un don de sang total et un don de plasma ou de plaquettes, ceux-ci se trouvant dans le sang, est que, dans le cas de ces derniers, les globules rouges prélevés sont rendus au donneur. C'est ce qui explique que certaines personnes puissent faire des dons aussi fréquemment. Si les femmes atteignent plus difficilement les paliers élevés, c'est parce que, dans le cas du sang total, les hommes peuvent donner tous les 56 jours, alors qu'elles, seulement tous les 84 jours. On peut donner tous les 6 jours dans le cas du plasma et tous les 14 jours dans le cas des plaquettes, précise-t-elle. Il est également possible de réaliser plusieurs dons d'un seul coup en donnant, par exemple, des plaquettes et du plasma. Il arrive même que certaines personnes puissent donner plusieurs plaquettes en une seule fois. C'est le cas de Lucille Desjardins. C'est un choix personnel. Malgré son palmarès, la retraitée se donne pour principe de ne pas juger les non-donneurs. C'est un choix personnel. Tout le monde a sa raison de ne pas donner, affirme-t-elle. De son côté, Jean Bernier s'efforce au contraire de convaincre ceux qu'il rencontre. Un don de sang peut sauver 3 personnes, dit-il. Avec ça, je crois que tout le monde devrait donner. Moi, je vais continuer tant que je serai en santé. Un investissement qui peut parfois demander quelques efforts. Il faut se donner un bon horaire et se forcer à bien manger pour avoir un bon niveau de fer, explique-t-il. Afin de le récompenser officiellement pour son geste, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a même remis une médaille de l'Assemblée nationale aux retraités. « Je n'ai jamais eu d'objectif. C'est avec un don à la fois qu'on réussit, affirme-t-il. Pour moi, avoir 100 dons, c'était déjà impensable. C'est seulement quand j'ai atteint les 900 que j'ai compris que c'était possible », ajoute son homologue féminine. Les jeunes, peu présents. Bien que Lucille Desjardins refuse de faire culpabiliser les non-donneurs, elle espère quand même que son record puisse permettre de conscientiser les gens. Un message que José Larrivé aimerait surtout adresser aux jeunes qui, depuis quelques années, semblent moins enclins à faire des dons. « On a besoin des 18-30 ans, des jeunes, dit-elle, parce que ce sont des donneurs de sang qui vont être là plus longtemps. » Selon la porte-parole, la pandémie serait l'une des causes de cette réduction du nombre de nouveaux donneurs. On essaie d'être présent auprès des jeunes dans leurs écoles, sur les campus, pour les habituer à notre présence. En général, ils deviennent bénévoles quand ils sont jeunes, puis ils viennent donner à 18 ans, détaille-t-elle. Mais avec la pandémie, on a été absent des campus pendant 2 ou 3 ans. Afin d'inciter ces nouveaux donneurs potentiels à faire leur premier don, l'organisme essaie de rendre le tout ludique. Des compétitions intercampus sont par exemple organisées pour motiver les étudiants. Petit à petit, ils reviennent. Mais c'est long et ardu. Une autre solution évoquée par la porte-parole serait de recommencer à échanger autour de ce sujet à la maison. Si, par exemple, des parents ou grands-parents en ont fait, ils peuvent en parler avec leurs enfants. C'est pour cette raison que Lucille Desjardins et Jean Bernier ont commencé à donner. Un schéma que le nouveau détenteur de record s'efforce de reproduire avec ses propres enfants. D'importants besoins quotidiens. Selon l'organisme, moins de 3% des adultes en âge de donner au Québec sautent le pas, soit environ 200 000 personnes. Pourtant, la demande, elle, reste conséquente. Notre réserve de sang doit toujours être optimale. C'est une situation à recommencer quotidiennement. Si, par exemple, on a besoin d'environ 1 000 dons par jour, ça veut dire que si on n'en fait que 700, le lendemain, il faut en faire 1 300, précise la porte-parole. Les besoins en plasma sont importants. Juste pour une petite bouteille qui servira à soigner la maladie d'une seule personne, il faut des centaines de donneurs. Aussi, afin d'augmenter l'autosuffisance en plasma de l'organisme, un nouveau centre fixe verra le jour à Drummondville. Aujourd'hui, il en existe 11 au Québec, dont 5 dans la région de Montréal. Ils permettent de réaliser plusieurs types de dons. Un chiffre auquel s'ajoutent les 30 à 50 collectes mobiles qui se concentrent uniquement sur le sang. C'était le Club des super donneurs de sang s'élargit, un texte d'Esther Dabert, paru le 14 mai 2024 dans la presse.
Écran, écho des profs. Un texte de Patrick Lagacé paru le 30 mars 2024 dans la presse. Je résume les chroniques précédentes. Grandir avec les écrans, dans les écrans, nuit à des circuits de développement cérébral et social qui ont mis des milliers d'années à se construire. Les jeunes ont besoin de jouer dans le réel pour se développer. Plonger très jeune dans le virtuel est anxiogène à plein d'égards. Plus de temps d'écran signifie moins de temps dans le réel, explique notamment Jonathan Haid dans un livre lancé tout récemment sur ce que le virtuel a fait au jeune cerveau, livre dont un résumé est disponible sur le site du magazine américain The Atlantic. Qu'est-ce qu'on perd à grandir dans le virtuel? C'est une des questions en filigrane de cette série de chroniques ponctuelles sur les écrans. Voici quelques pistes de réponse, gracieuseté de profs qui m'ont écrit. Amélie, vous parlez beaucoup des parents dans vos chroniques sur les écrans. Parlons des écoles qui surutilisent les écrans. En art plastique, ma fille de 8 ans regarde la panthère rose dans tous les cours. En musique, on utilise l'écran pour montrer ce que sont un opéra, une comédie musicale, un spectacle de percussion. Il me semble qu'on pourrait écouter la musique au lieu de la regarder. Je ne parle pas du service de garde qui permet aux enfants de regarder des imbécilités sur YouTube ou qui utilise Just Dance au lieu de les envoyer jouer dans la cour d'école. Geneviève B., enseignante au collégial. J'ai vécu l'arrivée des textos, puis l'accès à l'Internet en classe. J'ai vu les comportements des étudiants se modifier. Les étudiants n'échangent plus entre eux, aux pauses. Ils demeurent assis à leur pupitre, à pitonner. Avant, je pouvais poser des questions en classe et susciter des échanges. C'est maintenant super difficile d'obtenir un oui ou un non clair de leur part. Vous avez raison, ils ont peur de se faire juger par leur père. Au lieu de risquer une réponse, ils restent muets. Geneviève fait référence à une observation de Jonathan Haid sur l'explosion des interactions virtuelles sur les réseaux. Votre réputation est alors toujours à risque. Une erreur ou une mauvaise performance peut endommager votre statut social auprès d'un grand groupe de personnes. Ces interactions tendent alors à devenir plus théâtrales, performatives et causent plus de stress que la conversation face à face. Maxime C., enseignant au secondaire depuis 20 ans. J'adore la technologie. Jusqu'à récemment, j'étais en faveur d'un enseignement qui accompagnait l'élève dans son utilisation du cellulaire. Depuis la pandémie, j'ai complètement changé d'idée. Ce que je constate, les jeunes semblent moins aptes à imaginer, en plus du fait qu'ils s'impliquent de moins en moins devant les autres, probablement de peur d'être jugés ou bannis. Dès la petite enfance, ils ont été mis en contact avec YouTube pour les faire patienter au marché, dans la file, à la banque, au restaurant. C'est bien joli, les vidéos pleines de couleurs et de chansons scintillantes, mais ça ne laisse rien à l'imagination. Alors cette immense partie du cerveau en développement chez l'enfant est de moins en moins sollicitée et donc s'atrophie. Je le remarque clairement dans l'appauvrissement de la qualité des arguments et des débats dans ma classe. Si on a de la difficulté à imaginer des situations, il est difficile d'imaginer ce que l'autre peut vivre, ressentir. Je constate donc une réelle baisse de la capacité d'empathie. Tout ça nous pousse vers une compréhension sommaire, vers des jugements simples, sans nuance. J'étais le premier à ne pas vouloir interdire le cellulaire en classe, mais devant la puissance des réseaux sociaux, de la compétition commerciale, des algorithmes et de l'intelligence artificielle, nous ne faisons pas le poids et le cerveau éponge d'un enfant ou d'un adolescent ne fait certainement pas le poids. Catherine M. Mes élèves de première secondaire doivent déposer leur téléphone à l'endroit désigné dès qu'ils entrent en classe. C'est de la gestion. Ils sont plusieurs à traîner dans le cadre de porte et dans le corridor, repoussant le moment d'entrer en classe jusqu'à quelques secondes avant la cloche. En fin de période, quand ils ont bien travaillé, je fais fermer les livres et je donne les 5 dernières minutes pour qu'ils parlent entre eux. Leur réaction: est-ce qu'on peut reprendre nos téléphones? Réponse: non. Parlez-vous en vrai. Après 24 ans d'enseignement, principalement en première secondaire, ce qui me frappe le plus, ce sont les lacunes dans les habiletés sociales. Cette année, c'est plus frappant que jamais. Nadine P., enseignante au primaire. Ce que je remarque le plus avec la génération qui a grandi avec les écrans, ce sont les retards de langage. Comme prof, nous remarquons depuis quelques années une baisse significative de l'étendue du vocabulaire, probablement engendrée par les parents qui sont, eux aussi, sans cesse sur leur téléphone et qui communiquent moins avec leurs enfants. Il faut les voir venir chercher leurs enfants au service de garde sans trop les regarder ni leur parler parce qu'ils sont en train de texter. Kenza, enseignante au collégial. Pour un cours complémentaire, je me gâte. J'interdis complètement les écrans. Je leur fournis donc un document maison avec les notions et ils complètent le tout, avec un bon vieux stylo. L'expérience est marquante. Le niveau d'attention et de participation des étudiants est tellement plus grand que dans un cours régulier. Dans les autres cours, j'ai beau travailler aussi fort pour être dynamique et intéressante, force est de constater que je ne fais pas le poids devant leurs écrans. Je crois qu'on demeure frileux à limiter le temps d'écran à l'école. On associe les outils technologiques à une mine d'or d'avancées technologiques. Mais on ne se questionne pas assez sur ce qu'on laisse sur la table en échange. Une prof de sociologie. J'ai interdit la prise de notes sur ordinateur récemment. C'était catastrophique. C'était difficile de conserver leur attention. Au lieu de prendre des notes, poser des questions et discuter, ils déviaient inévitablement vers d'autres sites. Cette session, j'ai interdit tout écran. Il y a beaucoup plus d'échanges et de questionnements dans la classe. Je vais donc continuer sur cette voie. Je pense qu'il s'agit d'un enjeu de société significatif, même pour les jeunes adultes. Il faut élargir le questionnement aux études collégiales pour cerner l'impact des écrans sur la concentration des étudiants. Anne, prof au secondaire. J'ai presque 200 élèves de 14 ou 15 ans qui ont de nombreux troubles d'anxiété. Il est fréquent de voir des élèves refuser d'aller en classe non pas parce qu'ils vivent de l'intimidation, mais parce qu'ils ne peuvent gérer leur anxiété. Comme le ministère ne permet plus le cellulaire en classe, c'est moi qui dois faire respecter la règle. Pour moi et mes collègues, c'est une bataille qui s'intensifie. Ils ne veulent pas être privés de leur cellulaire. Je vois des élèves qui dorment en cours. Ils ont passé la nuit sur leurs écrans. Oui, j'ai acheté un cellulaire à mon fils au début de son deuxième secondaire, il y a 7 mois. Il m'a convaincu, car tous ses amis en avaient déjà un. Ils vivent en ligne. Je le regrette. Je suis sidéré de voir ce qu'il a vu en ligne, malgré les contrôles parentaux. Antisémitisme, homophobie, sexisme, pornographie, des commentaires affreux. Je lui ai acheté un chien en même temps. Meilleure décision. Mon fils doit prendre soin d'un être qui compte sur lui. On devrait interdire aux jeunes d'apporter leur cellulaire à l'école et avoir un animal de compagnie dans chaque classe. C'était Écran, écho des profs, un texte de Patrick Lagacé paru le 30 mars 2024 dans la presse.
Adepte de course, voici le fruit qui pourrait améliorer vos performances, selon une étude. Un texte de Francis Parenteau paru le 19 mars 2024 dans le Journal de Montréal. Les coureurs pourraient améliorer leurs performances sportives en consommant de la canneberge, qui aiderait aussi à optimiser la vitesse de course, selon des chercheurs de l'Université Concordia. Les spécialistes ont remarqué que la consommation d'un supplément de canneberge pendant 28 jours de suite entraînait des améliorations notables sur le plan de la performance et de la fatigue musculaire, selon l'étude parue dans Physical Activity and Nutrition. Le rythme de réoxygénation a aussi été plus rapide et la vitesse de course s'est améliorée de 1,5%. Quand il est question de sport d'élite, le moindre avantage peut faire la différence entre terminer cinquième ou monter sur le podium, a souligné Andreas Bergdahl, professeur agrégé au département de santé, de kinésiologie et de physiologie appliquée et auteur de l'étude. Pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont recruté 14 coureurs de haut niveau de l'équipe d'athlétisme de Concordia et de deux clubs de course de Montréal. Ils ont couru des épreuves contre la montre sur 1500 mètres et 400 mètres. La première fois, ils ont couru pour avoir une performance de référence. À la deuxième, ils ont reçu une dose élevée d'extrait de canneberge 2 heures avant de courir. La troisième course s'est déroulée après une petite consommation quotidienne de canneberge pendant 28 jours. Nous avons choisi ces distances pour tester les effets de l'extrait de canneberge sur différents systèmes énergétiques, a expliqué le doctorant Francis Parenteau, aussi auteur de l'article. La vitesse de course avait ainsi augmenté sur le 1500 mètres, mais pas pour le 400 mètres. Par contre, le taux de lactate dans le sang après l'effort, produit lorsque l'apport en oxygène est insuffisant, avait réduit pour la course la moins longue. C'était « Adepte de course ». Voici le fruit qui pourrait améliorer vos performances, selon une étude. Un texte de Francis Parenteau paru le 19 mars 2024 dans le Journal de Montréal.